Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, N comme noir, film noir avec Fabien Nuri, Bruno et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct et en public du salon Radio France. Faites le livre à la maison de la radio. Un jour, Taylor Cross payera pour ses crimes. En attendant, il en commet d'autres. Ça fait 5 ans et 3 albums de bande dessinée dense, sèche et violente que le gangster laconique et iconique créé par Fabien Nuri et Bruno en commet des crimes du Texas à Miami en passant par un pénitencier de Louisiane. Un vrai salopard, un dur à cuire, hard-boiled. Comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Taylor Cross, aussi énigmatique et brutal que le Continental Hop, le détective sans nom de Dashiell Hammett, aussi élégant qu'Alain Delon et longiligne que Jack Palance, Taylor Cross, les lecteurs férus du genre le sentent bien et surtout le véhicule idéal pour revisiter toute une mythologie américaine telle que l'on construit la littérature et le cinéma noir. Fabien Nuri avait déjà coupé l'herbe sous le pied des exégètes en exposant sa bibliothèque au Festival d'Angoulême, c'était en janvier 2015, bibliothèque où trônait en bonne place le suspensionné Dashiell Hammett, entouré de Richard Stark, Jim Thompson, Elmore Leonard et autres James Ellroy. Côté cinéma, il publie avec son complice Bruno un magnifique livre qui dévoile les sources, le territoire, les lointains cousins et les contemporains qui ont influencé directement ou plus ou moins infusé leur univers narratif et graphique. Ça s'appelle Vintage and Badass, le cinéma de Taylor Cross, une histoire subjective et illustrée du film noir dans ce qu'il a de plus sombre et de plus féroce, histoire qu'on a lue avec délice, volupté et angoisse, et dans laquelle Plan Large vous propose aujourd'hui de plonger à vos risques et périls. En fin d'émission, Ntebin nous parlera d'un cauchemar baroque qui fait partie des classiques tellement admirables que Fabien Nuri et Bruno n'ont même pas pris la peine de les présenter à leurs lecteurs, car ces lecteurs, ils les ont déjà vus et revus. La Dame de Shanghai, l'immortel chef-d'œuvre malade d'Orson Welles que Carlotta édite dans sa collection Ultra Collector, ou comment se servir des conventions du genre pour mieux le pulvériser. Mais pour le moment, retour aux sources, c'est l'heure du braquage.
Hard's locked in. No, he knows there's something up. He keeps scratching at the door.
That little mutt's just a plain nuisance.
That's Pod. I told you he knew.
Shut up and get in the car.
Wish that dog would stop howling. Gives me the creeps.
It's Pod. He got loose. He's following us.
I can't follow us far at night.
Oh, Roy, you can't.
Who says I can't? What I ought to do is put a bullet through his head. You got enough trouble without a fool dog? Let him in.
Poor little fella. Got no home. Got nobody, have you?
Of all the 14 carat sap, starting out on a caper with a woman and a dog. If he spoils this job, I'll...
Oh, you're full of talk. I think you're glad.
C'est n'importe quoi, un braquage avec une femme et un chien. Surtout quand le charmant petit chien s'appelle Pard, qu'il porte la poisse. C'est Humphrey Bogart qu'on vient d'entendre face à Ida Lupino dans High Sierra, la grande évasion de Raoul Walsh en 1941. Mad Dog Earl, c'est le nom de son personnage et c'est le premier modèle de Taylor Cross, Fabien Nuri.
Et oui, tout à fait. Il nous a complètement sauvé ce cher Bogart, particulièrement ses photos promo, parce que mon voisin Bruno... Ah, qui parfois est un grand malade.
C'est l'heure de la dénonciation.
Souhaitait qu'on fasse un abominable récit de Redneck. Avec, le modèle qu'il avait en tête, c'était Mr. Majestic avec Bronson et son béret qui défend ses pastèques contre la mafia.
Oui, et qui vient de ressortir en DVD chez Wildside. Hein.
Voilà,
et film étonnant de Richard Fleischer.
Fleischer, Elmore Leonard au script, du vrai bon matos 70s, mais indéfendable. Donc je lui ai proposé de garder les rednecks, mais de virer Bronson, et on l'a remplacé par Bogart. Et il y avait cette photo promo de High Sierra que moi j'avais découvert à 12 ans et qui m'a accompagné depuis. Et j'ai essayer d'envoyer la photo à Bruno pour savoir ce qu'il en penserait, parce que le béret, j'y arrivais pas. Et il a reçu la photo, il a dit oui. Sauvé.
Alors comment est-ce qu'on s'empare d'une figure aussi iconique que Bogart pour en faire autre chose? Parce qu'il y a beaucoup d'influence pour déterminer le personnage de Tyler Cross. Je parlais de Jack Palance tout à l'heure, il y est aussi pour beaucoup.
Bruno. Jack Palance plus que Bogart, à vrai dire. Parce que c'est vrai que la photo de Bogart, autant elle était très stimulante graphiquement, parce que c'est une photo magnifique, mais j'arrivais pas à me dépêtrer de la physionomie de Bogart, et du coup je suis allé vers Jack Palance, parce que naturellement il collait plus à mon dessin, parce qu'il est quand même plus marqué physiquement, avec ses pommettes saillantes, il a un visage plus marqué encore une fois, et donc du coup je suis plutôt parti de Jack Palance, voire de Lee Marvin, que de Bogart, avec lequel que j'arrivais pas à dessiner, j'arrivais pas à en faire quelque chose.
Puis il y a un principe, c'est que plusieurs pillages simultanés sont moins faciles à dénoncer qu'un seul.
Bah maintenant vous auto-dénoncez avec ce Vintage and Badass, donc on sait tout, et on sait notamment, mais ça on s'en doutait déjà, N.T. Bean, que non seulement c'est une figure fondatrice pour vous, ce High Sierra avec Bogart, mais c'est aussi un film charnière dans l'histoire du film noir, N.T. Bean, puisque c'est le moment où on quitte le film de gangster tel qu'on le voyait dans les années 20, les années 30, qui célébrait ses Scarface en premier lieu, pour passer à quelque chose de plus à la fois humain et de plus tragique.
Oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le terme de film noir a été inventé par des critiques français, et qu'à l'époque, quand ils faisaient des films de crime, les films criminels à Hollywood, ils se posaient pas la question de comment un genre évolue, et c'est ça qui est formidable dans ce livre, qui est un vrai livre de cinéma, c'est-à-dire c'est un livre de critique de cinéma pour les cinéphiles, en même temps que c'est un magnifique objet graphique, mais qui fait bien la filiation, puisqu'il y a aussi bien des films du début des années 30, c'est-à-dire bien avant ce qu'on appelle le film noir. Ça passe par le film noir, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y a la transformation de Bogart, qui est par l'esprit, même s'il n'est pas imité graphiquement, parce que Bogart est passé des méchants de films de gangsters aux détectives de films noirs, et Tyler Cross, en fait, c'est peut-être un criminel, mais il a le chapeau du privé aussi. Donc, et on continue ce voyage jusqu'au cinéma le plus contemporain, et en passant aussi par le cinéma coréen, le cinéma français, le cinéma italien. C'est un livre hallucinant.
Et ce qui est intéressant, Fabien Nuri, et ça je pense que ça vous a touché aussi, peut-être dès l'adolescence, c'est qu'on suit un criminel, mais qui n'est pas montré comme un être malfaisant, ou alors par moments. C'est-à-dire qu'il a des éruptions de violence, et en même temps, il peut être très fleur bleue et tenir la main d'une jeune fille handicapée pour regarder les étoiles le soir.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir peur de lui et peur pour lui. Il y a une ambivalence de nos sentiments, et à l'époque où on fait beaucoup de propagande infantilisante et où tous les diffuseurs vous disent « je veux plus d'empathie pour le personnage », il faut quand même savoir que la notion d'empathie ou d'identification est d'abord une notion morale. C'est la distance vis-à-vis du personnage que vous devez entretenir. Sinon, c'est très simple. Pour avoir de l'empathie pour quelqu'un, il suffit qu'il souffre. Mais un criminel qui souffre demeure un criminel, et il faut quand même l'arrêter. Et donc, le film noir au sens large, ou le film criminel, passe son existence à nous poser ce problème moral sans réponse. Et c'est à nous d'apporter les réponses. Et en général, après le film, la réponse n'est pas prémâchée, elle n'est pas prédigérée. La question reste ouverte à la fin du film, et c'est à nous, en tant qu'adultes, de vivre avec. Je crois que c'est ce qui nous plaît peut-être le plus à l'intérieur de ce genre.
I was over at Henry's. A couple of guys came in and tied up me and the cook. They shoved us in the kitchen. They said they were going to shoot you when you came in to supper. Well, George thought I ought to come over and tell you.
There's nothing I can do about it.
I can tell you what they look like.
I don't want to know what they're like. Thanks for coming.
Don't you want me to go and see the police?
No. That wouldn't do any good.
Isn't there something I could do?
There ain't anything to do.
Couldn't you get out of town?
No. I'm through with all that running around.
Why do they want to kill you?
I did something wrong once. Thanks for coming.
Yeah. It's all right.
Première apparition à l'écran du jeune Burt Lancaster, c'est sa voix tout à fait résignée qu'on entendait, à peine prévenu par un copain que des tueurs arrivent pour lui faire la peau, mais il fait quand même Frey Bogart à la fin de High Sierra, quand il était en haut du mont Whitney, il attend la mort avec un fatalisme tout à fait résigné, et alors ça pourrait être la fin d'un film, mais non, c'est le début tout à fait incroyable des tueurs, The Killers de Robert Siodmak, le seul moment d'ailleurs qui est directement tiré de la nouvelle d'Ernest Hemingway dans ce film qui va inventer après la suite. Mais alors il y a ce début formidable, Bruno, que vous avez repris parce que je n'ai peut-être pas assez signalé, mais dans Vintage and Badass il y a des critiques proprement littéraires, mais des critiques graphiques aussi, qui consistent à s'emparer d'une image pour la réapproprier, et cette arrivée des tueurs dans cette petite bourgade du New Jersey au début des tueurs, on dirait que c'est fait pour vous parce que c'est dans un noir et blanc extrêmement saturé, extrêmement expressionniste, qui convient très naturellement à votre dessin, Bruno.
Oui, et pourtant cette image, elle m'a surprise moi-même quand je l'ai dessinée, parce que c'est vrai que je suis assez peu habitué à travailler autant le clair obscur, à vrai dire. Mais là, vu que j'avais la photo du film pour comme support, donc ça m'a permis même de finalement de découvrir autre chose et puis de progresser graphiquement. Après, pour ce qui est du choix des images dans tout le livre, c'est vrai que ça a été fait de concert avec Fabien, et par moment on est parti sur des reprises d'affiches quand elles étaient inévitables, typiquement celle de Death Wish avec Charles Bronson. On pouvait pas passer à côté de l'affiche qui est quand même très iconique, et là pour le coup pour The Killers j'ai conservé la typo qui est quand même aussi très représentative du film, et puis plutôt que de représenter Burt Lancaster ou Ava Gardner, si je me trompe, on a préféré conserver cette scène emblématique du film. Et dans tout le livre, on a travaillé comme ça, c'est-à-dire que on est parti soit des affiches, mais souvent on a illustré les scènes. On est parti des scènes emblématiques qui symbolisaient mieux le film dont on parlait.
Alors vous ne vous trompez pas, c'est bien Ava Gardner, évidemment, puisque c'est le premier film de Burt Lancaster, mais c'est aussi le premier film où Ava Gardner a un rôle conséquent et où elle crée un archétype qui est l'archétype de la femme fatale. Et alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, Fabien Nury, dans tous ces films que vous prenez, certains sont des pépites inconnues, mais il y en a beaucoup où vous avez repéré les débuts des archétypes. Là, on est dans le prototype quasiment, et qui vont vous servir, parce que des femmes fatales, il y en a forcément dans un polar qui se passe dans ces années-là, et après on peut jouer avec le personnage, mais là vous allez à la racine même.
Oui, The Killers, c'est mythique, c'est fondateur à plus d'un titre. Lancaster, Gardner, il faut aussi souligner le script de Houston et Richard Brooks, donc on est quand même sur des gens qui vont faire le genre à l'arrivée. Siodmak, c'est un Allemand, un héritier de l'expressionnisme, donc c'est aussi une très grande influence, moins connue que Lang, mais essentielle. Donc on est vraiment sur un film qui pose la mythologie. Ava Gardner, ce qui est magnifique, c'est que c'est la garce vénale dans toute sa splendeur misogyne. C'est-à-dire que même le méchant est effaré à la fin et dit « Mais arrêtez-moi, je ne la supporte plus !» Il y a quelque chose d'une infinie violence dans ce portrait qui rejoint l'autre film fondateur qui serait le portrait de Stanwyck dans Assurance sur la mort. Et avec ça, vous avez véritablement la naissance de la menthe religieuse qui pose finalement tout le problème du sexisme sous-jacent du genre noir. C'est-à-dire que le personnage féminin est plutôt positif à l'intérieur du western, il est extrêmement négatif à l'intérieur du film noir. Il incarne beaucoup plus la damnation que la rédemption. Et donc, il y a peut-être une maladie à la naissance du genre. Et elle mérite d'être traitée, parce qu'après, il va y avoir une féminisation du genre aussi, un questionnement de tout ça. Le problème, ce qu'on déteste, nous, hommes, dans la femme fatale, c'est qu'on la désire. Et c'est qu'en plus, elle sait qu'on la désire et elle estime être libre de son choix. Et donc, finalement, ce qu'on lui reproche avant toute chose, c'est sa liberté, qui la rend dangereuse. Attention, mais on est dans les années 40 tout de même. Et donc, il faudrait pas qu'elle se presse trop de s'émanciper. Parce que nous, hommes, on file droit jusqu'à ce qu'on la rencontre.
Et on voit aussi avec ce film Entebbe que c'est le film noir est un terrain de jeu extraordinaire pour la mise en scène, alors particulièrement dans ce film parce qu'il y a une construction qui est encore plus radicale que celle de Citizen Kane, c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks mais qui sont pris en charge, je crois, par une dizaine de personnes, deux fois plus que dans Citizen Kane, et chaque flashback a presque son unité stylistique et adopte un principe de mise en scène différent selon qu'il raconte.
Bah, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer du roman ou du film policier classique, il s'agit jamais de reconstituer une énigme pour avoir la solution. Il s'agit de prendre le monde contemporain et de l'éclater, c'est-à-dire les pièces du puzzle finalement s'éclatent, y compris moralement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il va y avoir une sorte de retour de bâton. Tout ça est lié beaucoup aussi à l'évolution de la censure dans le cinéma hollywoodien. Et il y a eu un remake des Killers. Des tueurs, et c'est à bout portant. Et
on va en parler tout à l'heure, ne déplorez pas trop. On va y venir.
C'est intéressant de penser que c'est une étape qui est liée à une sorte de répression au niveau du code de production et d'autocensure, mais que derrière ça se profile quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, c'est vrai que la montre religieuse, etc., mais on a aussi, en général, ce sont des personnages qui sont malheureux. Ce ne sont pas des personnages qui sont en une dimension comme certaines très vilaines femmes ou garces du début des années 30. Là, il y a un côté introspectif, il y a un côté sadomasochiste qui est clairement du côté de la lecture psychanalytique parfois.
Oui, et avec même le personnage de l'enquêteur dans ce film qui est un agent d'assurance qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé, même la fin est tout à fait terrifiante puisque tout cela est pour un gain absolument dérisoire. Il a passé toute l'heure et demie du film à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il aura droit à 2 jours de congé et sa compagnie d'assurance va gagner quelques dixièmes de centimes dans son bénéfice annuel. Bon, on parlera tout à l'heure, Entebbe, du remake 18 ans plus tard de The Killers, remake par Don Siegel. À bout portant, mais la star de ce remake a déjà très très envie de faire un petit tour dans Plan Large. Vous reprendrez bien un peu de café?
How was the show?
The usual routines, not too bad.
Well, why don't you come straight home?
The way you ran out, I didn't think you cared.
What do you mean ran out?
It wasn't a stroll.
The election's this close, I can't afford trouble with a crazy ex-cop.
He's not so crazy. Got a hot flash for you. It hates your gut.
How would you know?
I was there, remember? I'm the girl you left at the bar.
I phoned a retreat. Tierney said you offered to buy Banyan a drink.
Tierney wouldn't know a gag unless it hit him right in the face.
He said you followed Banyan outside.
I went out looking for you. You made better time getting away than they make in the Olympics.
That's a real pretty kisser.
Isn't it?
I thought maybe you and Banyan played footsie while my back was turned.
You ought to trade Tierney in. Get yourself a more reliable stool pigeon.
Maybe I got myself a better stoolie. How was the Gaiety Club?
No! My arm, Vince! My arm!
You like cops, do you?
Don't, Vince, please!
Where'd you go with him?
My arm!
I asked you a question. Where?
I only saw him on the street. Only the street!
I suggest we call it a night.
I suggest you shut your mouth. Where'd you go with Banyan?
Nowhere! He dropped me off at the Gaiety!
Sure, the Gaiety, the Gaiety! Oh, you pig, you lying pig! I'll fix you in your pretty face.
Oh, Vince, she scalded.
She had it coming.
Don't just stand there. Get it to a doctor.
You'll have to make a police report.
That's why we're sending you. Go on, get moving.
I'll try.
Shut the door.
Vous écoutez Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma en direct et en public du Salon Radio France. Faites le livre à la maison de la radio. Nous sommes avec Fabien Nury et Bruno, scénariste et dessinateur de la série de bande dessinée Tyler Cross. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est une scène qu'on n'a pas encore vue chez vous, mais qu'on pourrait bien voir figurer dans un des albums de la série. Vous nous la décrivez, cette scène, Fabien Nury?
C'est la fameuse scène de la cafetière, c'est la légende, c'est le point d'horreur de Lee Marvin dans la première partie de sa carrière avant Liberty Valance, qui sera le dernier point atroce de Marvin avant qu'il ne devienne lui-même une star via un autre film dont on va parler, qui est À bout portant. Marvin, c'est Bogart 20 ans après Bogart.
Il faut dire quel film c'est, hein, c'est Règlement de compte.
Règlement de compte, The Big Hit,
Fritz Lang, 1953.
D'après William McGivern,
son film préféré pour sa période américaine.
Et c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est peut-être le plus bouleversant de tous les films noirs, à mon sens. Et là, j'émets un avis purement viscéral, à savoir que vous avez entendu la violence de cette scène, sa folie, sa brutalité, ses langues. C'est encore une fois l'expressionnisme allemand ayant fui le nazisme qui s'invite au pays du matérialisme et qui en donne le cauchemar. En même temps, le film est très optimiste. C'est presque un western. C'est le triomphe du bien. Et donc, on fait 1h30 de cauchemar pour aboutir en pleurant à un peu de lumière.
Entebin ?
Moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est un livre qui fait la part égale quasiment aux auteurs, aux cinéastes, y compris scénaristes, qui parfois deviendront ensuite réalisateurs, et aux acteurs. C'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup dans votre commentaire de Règlement de compte, c'est que vous réhabilitez Glenn Ford. Ça, c'est quelque chose que il était temps de le faire, quand même. Et vous parlez peut-être pas assez de Gloria Graham, qui est, là, je pense, la grande star féminine oubliée de ces années-là, puisqu'elle traverse... En fait, elle vient du violent Nicolas Ray, où elle est la maîtresse de Bogart, et elle va jusqu'à un petit rôle que vous mentionnez, d'ailleurs, dans Le coup de l'escalier de Robert Wise. Et là, c'est la gangster molle, c'est-à-dire le cliché le plus stéréotypé du début des années 30 dans les films de gangsters, qui devient une héroïne de films noirs. C'est
D'ailleurs, il y a quelque chose qui est révélateur sur nous-mêmes, en fait, dans le fait qu'en écoutant cette scène, on se met instantanément à parler de Lee Marvin, alors que l'autre voix, celle qu'on entend le plus, c'est celle de Gloria Graham, et c'est elle le plus beau personnage du film, et c'est elle aussi le point moral du film.
Mais c'est assez d'ailleurs symptomatique de l'embarras peut-être des studios avec ce que Fritz Lang avait fait de ce personnage de blonde idiote qui se révèle quelqu'un de beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, parce que l'image que vous avez reprise, Bruno, pour illustrer le passage sur Règlement de compte, c'est une photo promotionnelle du film où on voit Glenn Ford debout, Gloria Graham à ses genoux, lui tenant la jambe et le regardant d'un regard langoureux, ce qui n'est pas du tout les rapports qu'ils ont dans le film.
Bah, il lui tient comme les cheveux, il lui agrippe les cheveux. Oui, c'est vrai que l'image est à la fois très belle plastiquement, la photo est très belle plastiquement, encore une photo promo incroyable.
Mais je me demande si cette photo de promo n'est pas aussi tirée de l'autre film de Fritz Lang avec Glenn Ford et Gloria Graham, qui était Désirs humains, qui était un remake de La bête humaine, et qui est beaucoup plus proche de ce qui est montré sur cette pose.
Ah bon, alors peut-être qu'on a fait un contresens.
Elle est référencée avec Règlement de compte. J'ai tendance à croire que c'est Règlement de compte à cause essentiellement des fringues de Glenn Ford. Oui. Qui est quand même très, 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 très flic. Ce qui est étonnant, c'est le sadomasochisme à l'œuvre dans toute la séance photo. Il y a 4 ou 5 photos qui sont toutes comme ça. On a vraiment l'impression qu'elle l'aime parce qu'il la traîne à ses pieds. Ce qui est exactement le contraire, d'ailleurs, du film. Mais c'est aussi la matérialisation pour vendre à un public d'Américains bontins sous Eisenhower. C'est comme ça qu'on vend un film. Ce sont les rapports hommes-femmes que l'on présente en 54 en promo. Alors même que le film dit exactement le contraire. Dans ce film, d'ailleurs, Gloria Graham n'est pas la seule victime. Il y en a une autre sur les bras de laquelle on éteint sa cigarette. Il faut quand même rappeler tout ça. Et c'est elle et une autre femme qui contiennent la veuve d'un flic pourri et Gloria Graham. C'est un duel féminin aussi puissant que dans Johnny Guitar, d'ailleurs, qui va résoudre le film. Et l'impasse de Glenn Ford, son échec, sera surmonté par le sacrifice de Gloria Graham. Il y a évidemment la notion du Janus, le visage de profil, les bandages quand on la voit de face. Il y a les Sisters in Mink, les sœurs de Vison, la malédiction du Vison, encore un commentaire sur le matérialisme. Il y a absolument tout dans Règlement de compte. Moi, je vous dis, c'est mon préféré.
Vous regardez les films combien de fois est-ce que vous les voyez ensemble avant de faire ces analyses parce que je pense que Règlement de compte, vous avez dû le voir au moins 10 fois. Enfin.
Ouais, mais c'est en fait, je l'aimais bien la première fois où je l'ai vu à 15 ans. Et à 42, il me fait pleurer à chaque fois. Je dois être à 15 ou 20 sur Règlement de compte. Alors, j'arrête pas d'embêter Bruno, il est peut-être qu'à 3-4.
Non, moi, je suis à 0 sur Règlement de compte. Alors, j'ai honte de l'avouer. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, le film noir, le polar, on s'en rend bien compte, c'est l'univers de Fabien, et il m'a invité dans son jardin, donc ça fait depuis le premier Tyler Cross, et il m'a proposé de le rejoindre. Et bon, alors, les années passant, j'essaie de rattraper mon retard, mais il est encore très grand, et il me reste quelques films du livre que je n'ai pas vu, et Règlement de compte en fait partie.
Il y en a, à mon avis, quand même, que vous avez pas mal regardé.
Look, we'll be gone and far away.
Oh, I'll only be here 24 hours.
In a place like this, it could be a lifetime. Good luck, Mr. McCready.
Thank you. Thanks very much.
You for Black Rock?
That's right.
There must be some mistake. I'm Hastings, a telegraph agent. Nobody told me this train was stopping.
They didn't?
No, I just told you they didn't. And they ought to. What I want to know is why didn't they?
Maybe they didn't think it was important.
Important? It's the first time a streamliner stopped here in 4 years. You being met? You visiting folks or something? I mean, what do you want?
I want to go to a place called Adobe Flat. Are there any cabs available?
Adobe Flat?
Yeah.
No cabs.
Hotel open? The hotel open.
John Ford, dit-on, n'aimait pas beaucoup le format cinémascope. Il disait que c'était tout juste bon à filmer des serpents dans le désert. Avec ce film, cette scène qu'on vient entendre, on dirait que le cinémascope a été inventé pour ça, pour filmer un train dans le désert, son arrivée dans une ville qui est toute en horizontalité. C'est le début d'Un homme est passé, Bad Day at Black Rock, en titre original, 1954. John Sturges, la musique qu'on vient d'entendre est celle d'André Prévin. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, que la ville dans laquelle Tyler Cross, votre héros malfaisant, Fabien Nuri et Bruno, débarquent dans le premier tome de la série. D'ailleurs, la ville s'appelle Black Rock, donc c'est très clair. Pour ceux qui avaient vu le film, c'est une référence graphique majeure pour cet album, Bruno.
Oui, c'est clair. C'était le film de chevet pour faire l'album. Donc, il y a énormément d'emprunts visuels. Au film, à savoir la station service, les ambiances colorées étaient pas mal inspirées par le film.
Et même les cases en cinémascope, ouais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit assez peu en bande dessinée, qu'on voit régulièrement dans la série Tyler Cross. Comment est-ce qu'on organise le dessin? Est-ce que c'est plus compliqué, par exemple? Est-ce que ça pose les mêmes problèmes que pour un cinéaste d'organiser une image à l'intérieur de ce format très allongé?
Non, à vrai dire, le format cinémascope se prête assez bien à la bande dessinée. Et puis il a un intérêt par rapport à, d'un point de vue purement narratif, c'est qu'il sert à dilater le temps. C'est-à-dire qu'une case qui fait toute la longueur du strip, finalement, quand on la lit, le temps paraît beaucoup plus long que si ce même strip était scindé en plusieurs cases. Donc par rapport, donc c'est un outil rythmique très très intéressant et qui adossé à l'utilisation de la voix off, comme c'est le cas dans Tyler Cross, est vraiment vital au rythme qu'on veut influer dans la série.
Oui, parce que ces questions de rythme et de mise en scène, évidemment, vous y pensez, Fabien Nuri, dès l'écriture du scénario. Et la beauté de ce livre, c'est que vous ne parlez pas seulement d'influence en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes d'univers graphique, mais la question de la mise en scène aussi vous interroge. Et vous notez, effectivement, que John Sturges, qui est l'éternel mal-aimé des dictionnaires de cinéma, hein, on le méprise toujours un peu, il a fait les les sept mercenaires, règlement de compte à Hockey Corral. Et puis quoi, vous vous montrez, notamment avec ce film, comment à cause de la lourdeur de l'appareil même de prise de vue en cinémascope, il construit une mise en scène extrêmement complexe à l'intérieur du cadre.
Ce qui est, c'est qu'on ne peut pas changer de plan toutes les deux secondes. On est obligé de faire moins de plans. Donc, ça pose un vrai problème technique, lequel engendre, comme souvent avec la contrainte, une vraie créativité. C'est-à-dire que c'est dans la compo du plan qu'on est obligé de faire bouger les comédiens avec un système de marque, avec des amorces, avec des gens qui vont aller, venir du fond du cadre, s'avancer, reculer. Et avec tout ça, vous pouvez discerner leur rapport de force. Et dans un... Il faut quand même préciser qu'Un homme est passé, c'est la fusion du film noir et du western. Le western, c'est horizontal. Le film noir, c'est Gotham, si vous voulez. C'est plein de contre-plongées, c'est très vertical. Le western, c'est une horizontalité avec des blocs. C'est Monument Valley. Donc là, on est dans un horizontal. Or, on est dans une histoire de film noir. Un crime a été commis dans une collectivité et la lâcheté collective empêche sa résolution. Donc un civil arrive et se substitue aux autorités. Il y a quand même une enquête à l'intérieur du film. Et donc, si vous voulez, quand vous faites une BD, c'est pareil. Si vous faites des petites cases en hauteur, on va lire vite. Si vous faites des cases en largeur, on va lire doucement. À l'intérieur de ces cases en largeur, vous devez donner d'autant plus qu'elles prennent beaucoup plus de place. Et c'est un des trois films, il y a celui-là, Les Inconnus dans la ville, et en pur western, Le Jardin du Diable, que moi, personnellement, je crédite comme les inventeurs du cinémascope, quoi. Un homme est passé, et le probablement le plus beau film de Sturges, qui en a quand même livré quelques-uns d'autres de très beaux, il me semble.
Un homme est passé, il y a Lee Marvin dedans. Les Inconnus dans la ville, il y a Lee Marvin dedans. C'est vraiment le héros secret.
Oui, mais vous l'avez pas mis, Les Inconnus dans la ville.
Je l'ai mentionné.
C'est terrible. Oui,
parce
mais
que enfin... on peut pas tout mettre. Et puis en plus, Les Inconnus dans la ville, là, c'est plusieurs hommes sont passés, mais pour braquer la banque. Donc c'est pas tout à fait le même jeu. La Fleischer, dont on parle longuement quand même, qui est le réal des Inconnus dans la ville, est un des autres très très grands metteurs en scène du noir.
Et le noir, on vient de le voir avec ce film, parce qu'on l'a pas dit, il est en couleur. Le noir peut donc être en couleur. En voilà encore une preuve, s'il en était besoin.
Excuse me, fellas. Eddie, you want to take this? Feel the points here in this distributor cap and then pass it on to all you geniuses. Hello?
Mr. Nichols.
That's right, this is Mr. Nichols.
Two men are coming after you. Miss Watson thinks they're going to kill you.
Oh, I see. Thank you.
You don't understand, Mr. Nichols. Should I call the police? Try to get help?
No. No, don't bother. It's all right. I know them.
Mr. Nichols.
I know them. My class is dismissed.
I say class is dismissed!
Un ton un peu plus énervé, c'est la même scène que celle qu'on a entendue il y a 20 minutes, c'est à nouveau The Killers, mais version Don Siegel en 1964, en français donc À bout portant, et celui qui se laisse tuer, ce n'est plus Burt Lancaster, c'est John Cassavetes, et dans Les Tueurs, il y a donc encore l'impeccable Lee Marvin, c'est le rôle qui fait de Lee Marvin une star. Alors ce qui a changé en 18 ans, c'est d'abord que Les Tueurs ne tuent plus la nuit, ils tuent en plein jour, N.T. Bean, alors évidemment c'est d'autant plus facile qu'autour d'eux, il n'y a que des aveugles, mais tout le film est comme ça, c'est un film noir essentiellement diurne et très 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 coloré.
Oui, parce que le film noir en fait c'est fini. À Hollywood, c'est fini. D'ailleurs, ce film-là, À bout portant, est un téléfilm au départ, mais qui est trop violent, donc il est interdit à la télévision. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le western et le polar qui sont sans cesse, vous en parlez tout, pour les confronter tout le temps dans le livre, l'un étant le revers de l'autre, mais finalement, au moment où le film noir devient en couleur et autre chose, eh bien, le western devient crépusculaire. Donc il y a vraiment une fusion là, et qui va mener finalement au cinéma moderne. moderne. C'est-à-dire que le film jumeau de À bout portant, c'est Le Point de non-retour, avec le même couple de stars, hein, c'est Lee Marvin et Angie Dickinson, et vous assimilez Le Point de non-retour de John Boorman à l'équivalent pour le polar de ce qu'est 2001 pour le film de science-fiction. Donc il y a vraiment une nouvelle ère qui relie, en fait, qui relie IE et qui relie IT, le film noir avec la sensibilité moderne, avec peut-être le cynisme de la société d'aujourd'hui, avec les changements du cinéma américain de Hollywood qui mène vers le nouvel Hollywood que vous connaissez bien, évidemment. Voilà, donc c'est intéressant. Raoul Walsh, à un moment donné, il est obligé de faire une scission. Il fait deux fois la même histoire, High Sierra, et puis son western. Mais s'il avait continué, ou s'il avait vécu peut-être 15 ans plus tard, il aurait peut-être fait un seul et même film.
Et il fait aussi ce qui est très troublant dans ce film, et ça sera encore plus le cas sans doute dans Point Blank, c'est que les villes deviennent interchangeables. C'est qu'on est dans cette modernité-là, c'est aussi le ripollinage des différences. Et à bout portant, on passe de Miami à Los Angeles ou à la Nouvelle-Orléans, et tous ces lieux deviennent impersonnels et se ressemblent, ce qui est un réservoir là encore d'images et de mise en scène formidable. Fabien Nuri.
Le plus fascinant sur À bout portant, c'est que c'est un remake d'une profonde originalité. C'est le seul cas à ma connaissance où vous faites un remake d'un film en enlevant le gentil. Ils ont enlevé le gentil. Il y avait un type qui menait l'enquête sur le meurtre au départ. C'était Edmond O'Brien, agent d'assurance. C'était quand même un type pas trop méchant qui cherche à résoudre un crime. Non, c'est fini. C'est les tueurs eux-mêmes. Parce que pourquoi ce type s'est-il laissé tuer et y a-t-il encore plus de blé à récupérer? Il n'y a même plus de raison morale ou de point positif moral à l'intérieur du film. On a basculé. On est de l'autre côté. On va suivre des brutes qui passent leur temps et le film entier à brutaliser tous les témoins. L'enquêteur enquêté, eux, ils torturent. Et ils n'arrêtent pas de dire ça. Ils vont voir le meilleur copain de leur victime et ils disent « À moins que tu n'aies envie de renouveler ton partenariat avec le défunt, je te conseille de nous dire tout ce que tu sais. » À la suite de quoi ? Dès le début, de toute façon, tout est dit. Lee Marvin commence le film en tabassant une réceptionniste aveugle. Il la tape d'abord, il lui dit « chute après ». Je vous jure, ça s'invente pas. En 64, on se dit « mais où est-ce qu'on est ?» Et donc, le chemin parcouru. Et curieusement, c'est au même moment que, dans d'autres pays, arrive James Bond. Arrive Clint Eastwood, l'homme sans nom. C'est-à-dire que le héros, il a plus besoin de ses raisons d'être un héros. Avant, il avait des raisons. Là, il en a plus. Il suffit qu'il cartonne. Le problème de ça, c'est que c'est le cynisme. C'est-à-dire que, à force de cartonner en butant de plus en plus de gens figurants ou personnages secondaires, à la fin de la décennie, il va se réveiller, il va dire, mais je suis un fantôme, je suis un salaud, je suis un rien. Ça s'appelle la horde sauvage, en gros, et allons tous crever au fond d'un bordel mexicain, puisque à quoi bon? Et donc, cette révolution-là va donner le nouvel Hollywood. Elle est déjà en germe là-dedans. C'est-à-dire que le bon, c'est le méchant, c'est le bon. Les blancs vont tous avoir envie de devenir indiens. Les méchants, ce sont ceux qui nous ont embauchés. La police est elle-même criminelle, etc., etc. Cette inversion de valeur qui est magnifique, et qui est la deuxième, je dirais, grande révolution noire, etc., va s'arrêter net en 1977 à cause d'une lointaine galaxie, etc. Et nous pourrons repartir dans une ère de propagande encore à l'œuvre aujourd'hui.
Have a drink.
Still got your sense of humor.
Drink up. Drink up. I want you to drink all of that. Do you understand? Drink it all. Just like it was with my brother Frank. Go on, sir. Drink up. Drink up, Harry. It was you. It was you who poured it down, wasn't it? Hey, Eric. Go on, sir. Go on, sir. Hey. Did you all have a good laugh? Hey. Did you have a good laugh when he was spewing it out? Hey. Drink up. Drink it! Drink it! You can pass the bottle round when the car went over the top! Hey! Goodbye, Eric!
Thank you.
écoutez bien France Culture, c'est Plan Large en direct et en public du salon Radio France Fête le Livre à la Maison de la Radio. Dernier volet de notre plongée dans le film noir en compagnie des auteurs de bande dessinée Fabien Nury et Bruno. Alors vous consacrez une bonne partie de votre livre, Vintage and Badass, le cinéma de Tyler Cross, à ce que vous appelez les lointains cousins, cousins qui peuvent être asiatiques, italiens pour beaucoup, français, voire anglais, ce qui a dû réjouir notre anglophile Ntebin. Ce qu'on vient d'entendre, c'est, comme vous l'écrivez, un de ces films criminels tout à fait badass, largement aussi teigneux et désespérés que leur cousin américain, Get Carter, La loi du milieu de Mike Hodges, en 1971, à ne surtout pas confondre avec son très désastreux remake avec Sylvester Stallone. Alors, un internaute sur les réseaux sociaux nous demande, Get Carter comme film noir, est-ce si spontanément évident? C'est le moment définition. Fabien Nury, quelle est votre définition du film noir? Et en quoi Get Carter peut rentrer dans la catégorie?
Et alors, aucune définition n'est parfaite, et tant mieux, toutes les définitions sont poreuses et incomplètes. Quelqu'un m'a expliqué un jour une définition que je trouve pratique en tout cas. C'est que de toute façon, si vous avez un fait divers, vous allez avoir un criminel, un enquêteur et une victime. Si vous prenez le point de vue du criminel, vous aurez un film noir. Si vous prenez le point de vue de l'enquêteur, vous aurez un polar ou film policier. Si vous prenez le point de vue de la victime, vous aurez un thriller. En général, elle est blonde, elle ne meurt pas, et Alfred Hitchcock l'exploite pendant 1h30. Donc ça, c'est le point de vue que j'ai moi, mais c'est simplement celui dont je me sert. D'autres ont une définition beaucoup plus, je dirais, historiographique, rigoureuse, fermée en termes de date du film noir, donc 41, 56 à peu près, on dirait, du Faucon Maltais jusqu'à En quatrième vitesse. Voilà, personnellement, j'essaye d'avoir une vision plus large, poreuse, inclusive du noir.
Bruno, votre définition à vous, c'est un univers graphique aussi, le dessin magnifique pour Get Carter de Michael Caine, vraiment Michael Caine qui a été fait par ce film dans toute sa dimension inquiétante et trouble, illustrant la scène qu'on vient d'entendre.
Ouais, alors j'avoue que j'aurais peine à faire une meilleure définition que celle que vient donner Fabien. Pour revenir à Get Carter, moi, honnêtement, j'ai pas trop accroché sur le film, à part, disons qu'il a commencé à décoller au moment où Michael Caine s'énerve, donc c'est-à-dire 20 minutes avant la fin du film, et d'où l'illustration qui est tirée de la fin du film avec cette scène de torture tout bonnement hallucinante où Michael Caine force un pauvre gars qui à boire une bouteille de whisky en entier sous la menace d'un fusil de chasse.
Ntebin, on avait parlé récemment, il me semble, dans une de vos chroniques de polar anglais, oui, qui n'atteignait pas encore totalement la sauvagerie de ce Get Carter de Mike Hodges.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, du coup, vous disiez que les villes se ressemblent toutes, eh bien les pays aussi se ressemblent tous. Et ce qui identifie finalement le plus un film... Enfin, la nationalité d'un film, ça devient l'interprète principal. C'est-à-dire que de la même manière que vous mettez Les Forbans de la Nuit, qui est un film tourné à Londres, vous le mettez dans les films américains parce que c'est Richard Widmark qui joue le rôle principal. Ici, on est dans un film noir à l'anglaise. Mais ce que font les Anglais est souvent soit beaucoup plus sage, soit beaucoup plus extrême. C'est-à-dire que le seul film de psychopathe que vous citez n'est pas américain, il est anglais, c'est Le Voyeur. Et c'est vrai que l'insularité et aussi l'espèce de concurrence avec Hollywood fait que les Anglais, ils veulent peut-être se démarquer, aller plus loin. Ils sont peut-être plus libres aussi, parfois. Et c'est ce qui rend finalement votre panorama qui excède beaucoup juste l'histoire d'un genre. Moi, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez choisi les films français. Parce que vous prenez, plutôt que de prendre Quai des Orfèvres de Clouseau, vous prenez Le Salaire de la Peur. Plutôt que de prendre n'importe lequel des Chabrol avec Stéphane Audran, vous prenez Nada. Plutôt que de prendre un tel autre classique, vous prenez le film Le Moins Aimé de Buñuel, qui La Fièvre monte à El Pao. Plutôt que de prendre Melville, vous prenez Claude Sauté avec Classe Touriste. Donc ça procède bien de ce que je disais, enfin de ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire que il y a les chefs-d'œuvre, vous avez vu, vous avez revu, mais je vais vous montrer les petits joyaux qui en fait nous ont inspiré. Alors vous dites finalement, vous parlez du puits, vous dites l'eau qu'on boit, on finit par la pisser, enfin quelque chose comme ça. En fait, vous trompez en physiologie, parce que l'eau qu'on boit,
c'est
en fait,
médecin Ntebin qui parle.
Voilà, l'eau qu'on boit, elle passe dans le sang. C'est les déchets qui passent dans la pisse. Donc, finalement, ces films-là, ils sont dans votre sang. Vous n'avez même pas besoin de les copier.
Oui, c'était Fabien juste Nuri. Un jeu sur la notion de piscopie. Voilà, on essayait simplement de dire ça parce qu'on pisse de la copie, quoi. Et donc c'était juste ça. Et la notion de copie est inhérente au genre. On a essayé de parler beaucoup et beaucoup et beaucoup des remakes et de leur pertinence ou non, de ce qui différencie un remake ou un pertinent d'un remake non pertinent.
C'est une manière de parler de vous aussi, parce que sans faire du remake, vous faites de la réinterprétation, en tout cas.
Sans cesse, et c'est aussi ça, le genre. Si vous faites 1000 Pietà, à la fin, ça n'aura plus aucun sens. Et cette évolution et ce pourrissement par la répétition nous paraît tout à fait intéressant. Ce qui est beau dans Get Carter, c'est qu'ils font rentrer du sang, justement, neuf, à l'intérieur d'un genre. Le roman, c'est une variation sur La Moisson Rouge de Deschilamet. Un type détille une ville en dressant les gants les uns contre les autres. N'empêche que, remis à Newcastle, il prend un nouveau sens, un sens social. Et ce que Ahmet ne faisait pas avec son Continentalope, il donne des origines à son Carter. Carter est un enfant du pays et au fond, c'est ça qui le rend malade. Et c'est ça qui fait que le film dépasse le simple exercice de style en s'enracinant dans son territoire. Kurosawa fait pareil avec Entre le ciel et l'enfer, voire avec Yojimbo. Et on voit d'ailleurs un truc, il y a un moment où on fait tout le trajet de La Moisson Rouge qui devient Yojimbo, qui devient Pour une poignée de dollars, qui passe par Get Carter et qui finit par Dernier Recours, gros nanar consanguin débile avec Bruce Willis. Moi, j'aime bien Dernier Recours, mais on voit bien l'appauvrissement du sang. We have too little time. The moments fly. Summer, winter, fall, and spring aren't half enough. The days go past, and oh, they go so fast. Why can't they last?
Little Time, comme le chant de Sarah Vaughan, qui reprend l'année même du film, la chanson qu'Henri Mancini avait composée pour À bout portant, comme l'a reconnu Fabien Nuri. Il nous reste donc trop peu de temps pour évoquer plus longuement d'autres films, mais il vous reste, chers auditeurs, chers publics du salon Radio France, faites le livre à vous procurer, le très beau et très très passionnant Vintage and Badass, le cinéma de Tyler Cross, publié chez Dargo. Merci beaucoup Fabien Nuri et Bruno. Les visiteurs du salon Radio France, faites le livre, sont des privilégiés, ils ont de la chance, parce que vous dédicacerez vos livres dans quelques instants à quelques mètres de ce studio sur l'espace bande dessinée. Et je signale aussi que la très bonne adaptation cinéma d'une autre de votre bande dessinée, Fabien Nuri, La mort de Staline par Armando Iannucci, est sortie en DVD et en Blu-ray chez Gaumont. Et puisque vous aimez Don Siegel, je vous signale encore que sort lundi Le dernier des géants chez Sidonis. Et comme je ne doute pas que vous aimez tout autant que nous le grand Samuel Fuller, il faudra attendre en revanche une petite semaine pour vous procurer toujours en Blu-ray et en DVD The Naked Kiss et Shock Corridor, ce film incroyable chez Wildside. Le cinéma vintage, comme vous dites, c'est aussi dans les salles. Mercredi est ressorti en copie restaurée Le Départ, le film de Jerzy Skolimowski avec Jean-Pierre Léo Skolimowski, dont je peux déjà vous annoncer qu'il sera l'invité de Plan Large en mars prochain quand il passera à Paris. Il y a aussi encore en salle trois films d'un des cousins anglais du film noir, Carol Reed, n'est-ce pas, Ntebin, Première désillusion, L'homme de Berlin, et bien sûr, Le troisième homme avec un certain Orson Welles.
When I start out to make a fool of myself, there's very little can stop me. If I'd known where it would end, I'd have never let anything start. If I had been in my right mind, that is. But once I had seen her, once I had seen her, I was not in my right mind for quite some time. Good evening, said I, thinking myself a very gay dog indeed. But here was a beautiful girl all by herself and me with plenty of time, nothing to do but get myself into trouble. Some people can smell danger. Not me. I asked her if she'd have a cigarette. It's my last one. I've been looking forward to it, so please don't disappoint me.
But I don't smoke.
On ne pouvait pas conclure ce plan large consacré au film noir sans évoquer un chef-d'œuvre du genre. Ou pas, d'ailleurs on va en discuter, la Dame de Shanghai dont on entend le début avec la voix off si caractéristique d'Orson Welles, teintée d'un fort accent irlandais pour les besoins du film, film que Carlotta vient d'éditer dans sa luxueuse collection Ultra Collector, dans une très belle copie restaurée en Blu-ray et accompagnée d'un livre richement illustré, miroir d'un film. C'est un film évidemment a posteriori extrêmement influent dans l'histoire du cinéma, ne serait-ce que pour sa célèbre scène finale dans le Palais des Glaces avec ses miroirs qui diffractent et détruisent en même temps l'image de la femme fatale qu'interprète Rita Hayworth. C'est aussi un grand film malade, comme beaucoup des films d'Orson Welles. Pas seulement parce que pendant le tournage, la dite Rita Hayworth et son Orson Welles de mari étaient en instance de divorce, mais surtout parce que son producteur, c'était Harry Cohn de la Columbia, est très largement intervenu dans le film pour contrecarrer autant qu'il pouvait la vision de Welles, à force de remontage et d'inserts de gros plans sur la star maison, pour finir par le sortir en catimini, 2 ans après, comme une vulgaire série B. Et pourtant, avez-vous écrit Anne Tebbin, c'était il y a 20 ans, dans un des textes repris dans cette édition, un texte qui s'appelle « Près des yeux, près du cœur », je vous cite, Anne Tebbin, « ces gros plans surajoutés ne choquent que si l'on en connaît la genèse, le décalage opéré par ces inserts ne nuit pas à la démarche de Welles, car ils font émerger 2 visages d'un océan de cauchemars ».
Oui, alors, La Dame de Shanghai a ceci de commun avec les grands films noirs canoniques, qu'on est dans une énigme qui tourne au cauchemar et que du coup, on n'a pas du tout besoin de comprendre. C'est-à-dire que comme La Griffe du passé de Jack Turner ou comme Le Grand Sommeil de Howard Hawks, ça n'est pas la compréhension de l'histoire qui importe, c'est la compréhension des personnages. Et c'est très intéressant que dès la première scène, dès la première réplique, Rita Hayworth met à mal son image de vamp avec le fume-cigarette, puisque sa première phrase c'est « je ne fume pas ». Donc, alors, on va faire
On casse l'image de Gilda, hein, et on lui coupe, on lui coupe les cheveux et on la teint en blonde.
On lui coupe les cheveux, mais parce que aussi Rita Hayworth et Orson Welles, qui espèrent peut-être renouer parce qu'ils sont en froid, ils ont été mariés, et la Columbia espère que ça va se passer aussi sur ce film-là. Pour des raisons de marketing, en fait, tout va foirer. Enfin, rien ne va marcher comme on le voudrait. Mais par contre, le film va, je pense, bénéficier de ce clash entre Harry Cohn et Orson Welles. Ça deviendra à la fois un film typiquement Welles et typiquement film noir, c'est-à-dire typiquement film de genre. Ce que Welles, finalement, n'a jamais fait par ailleurs, sauf dans le seul film qu'il n'a pas revendiqué, qui est le film d'avant, qui est le criminel, donc The Stranger.
Il a donné des gages de bonne conduite au studio en tournant selon le canon classique, voilà, hollywoodien.
Mais il aurait pu devenir, comme beaucoup de grands cinéastes, d'ailleurs, comme Fritz Lang d'une certaine manière, un grand auteur s'exprimant avec les instruments du studio. C'est pas du tout ce qu'il cherchait. Bon, il faut remettre un peu le contexte en place. Orson Welles, c'est une star de cinéma. Il vient de se ruiner en produisant Le Tour du Monde en 80 jours sur scène en comédie musicale. Il a besoin d'argent parce qu'il est très endetté. Et il arnaque, en fait, un jeune metteur en scène qui s'appelle William Castle, qui lui propose de jouer dans un film qui va devenir La Dame de Shanghai. Et Orson Welles en parle à Harry Cohn et dit « Ah ben j'ai une idée, si on adaptait ce livre, il va retirer le projet des mains de William Castle, qui va devenir producteur associé, parce qu'il a quand même produit un scénario. » Et comme à la Columbia, Harry Cohn, sa vedette numéro 1, c'est Rita Hayworth. Voilà, tout semble réuni pour que tout aille le mieux pour le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes. Et par contre, le tournage va être une catastrophe. Enfin, il va y avoir sans cesse des conflits entre la production et Welles, un tournage en extérieur, ce qui est relativement rare pour le film noir, et une façon virtuose de raccorder avec les scènes de studio. Et ensuite, un montage qui, comme très souvent avec Wells, est complètement dénaturé par le studio, qui exige non seulement qu'il y ait beaucoup plus de plans de Rita Hayworth, mais beaucoup plus de plans d'Orson Welles, puisque c'est la star du film. Donc on va forcer le metteur en scène à faire des gros plans de lui. Il va en émerger cette espèce de film monstrueux qui aujourd'hui a un pouvoir de fascination extraordinaire. Parce qu'il y a trois chefs opérateurs, parce qu'il n'y a aucune scène qui raccorde lumière avec le plan d'après. Et puis, il y a des séquences d'anthologie. Vous avez cité celle des miroirs, qui est juste précédée de celle de l'hallucination dans la baraque foraine. Mais il y a aussi la scène de l'aquarium, enfin, c'est la scène du procès. C'est absolument une suite de morceaux d'anthologie.
Fabien Nury, alors le film n'est pas dans votre livre, trop connu, je le disais tout à l'heure, pas une de ces pépites secrètes, mais vous l'avez revu récemment, je crois.
Oui, on l'a revu pour Tyler Cross 3, Miami, pour son ambiance maritime. Il y a quelque chose qui me fascine chez Wells, dont je suis très content de pouvoir vous parler avec vous aujourd'hui. C'est d'abord que l'essentiel de sa filmo paraît noir, à commencer par Citizen Kane, qui est une enquête et sur un mystère, lequel échappera à l'enquêteur. Et surtout qu'on a l'impression que toute sa filmo et même les Shakespeare participent d'une lutte entre le chaos et le destin. C'est-à-dire que chez Wells, le bordel règne, l'accumulation est reine, tout est foutraque, tout est bordélique et pourtant tout est écrit. Wells, c'est le type de la prédestination, il démarre par la fin, tout est écrit donc tout est en ordre. Il ne devrait pas y avoir de bordel puisque tout arrive vers une fin qu'on sait tragique et qui est connue. Maybe I'll die trying. Et en même temps, le chaos et le débordement règnent. Et il y a un côté beaucoup de bruit pour rien qui nous renvoie encore à Shakespeare, etc. Et donc je pense qu'il y aurait beaucoup à raconter encore, alors qu'il a été amplement commenté, sur ce rapport au noir de Wells, notamment sur l'influence d'Eric Ambler et du masque de Dimitrios et ce genre de choses. Donc je serais très curieux de savoir ce que vous avez à nous raconter sur Wells et le noir.
N.T. Bean, Wells et le noir en une minute.
Je pense que le genre noir a bénéficié en fait de Citizen Kane. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est Citizen Kane, quasi la même année que Le Faucon Maltais, tout le film criminel hollywoodien est changé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Wells va prendre le même schéma que La Dame de Shanghai, il va en faire son dernier film de fiction, qui est une histoire immortelle, avec les mêmes personnages, un marin, un potentat, une femme trop belle, et une machination qui va foirer. Donc il y a un schéma qui reste. Et Wells, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est très écrit, mais c'est vrai que c'est aussi très incarné. Il y a un jeu de l'acteur chez Wells. Et le métier préféré de Wells, à part le cinéma et le théâtre, c'était quoi? C'était illusionniste, prestigitateur. C'est-à-dire on prend des choses, on fait des tours de passe-passe pour le public.
Et avec cette fin qui est un grand moment d'illusion, puisque la scène des miroirs, ce n'est que ça, c'est jeu d'illusion en permanence. But if you hold me, don't take your arms away. Comes a change in weather, comes a change of heart, and who knows when the rain will start. So I beg you, please don't love me. But if you love me, then don't take your lips or your arms or your love away.
Glasso, Lusto, right? GLOSSOLUSTO is right. Glasso, Lusto.
Merci Bean, la Dame de Shanghai en édition Blu-ray DVD Ultra Collector, c'est chez Carlotta. Et si vous voulez voir un nouveau film d'Orson Welles, le dernier de ses projets inachevés et achevés comme ils ont pu le faire, le très curieux The Other Side of the Wind, c'est enfin visible sur Netflix depuis le début du mois. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alexandre James et Benjamin Chauvin et Anthony Thomasson au studio 158. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet, réalisée par Somanina. Un grand merci à Alain Fauché et à toutes les équipes de Radio France. Faites le livre la semaine prochaine, Plan Large, sur un cinéaste qui lui aussi a donné dans le film noir parfois, Elia Kazan, célébré à la Cinémathèque française. Nous serons avec Florence Colombani et Michel Simon. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.